L'humiliation est-elle moteur de révolution ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, comme chaque vendredi, c'est le Club des Idées, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant de fruits et légumes dont la charrette avait été une fois de plus confisquée sans raison, décidait de s'immoler par le feu devant le siège des autorités. Un geste de protestation ultime qu'il n'est pas le premier à oser, mais le sien sera l'étincelle d'une révolte qui conduira un mois plus tard à la chute de la dictature de Ben Ali en Tunisie. C'était il y a tout juste 6 ans. Depuis, le suicide de Mohamed Bouazizi est considéré comme le point de départ de la révolte de tout un pays contre un système de violence, de corruption et de misère au cœur de l'État. Preuve qu'on ne peut pas durablement bafouer la dignité d'un homme ou d'un peuple. Les humiliations collectives sont pourtant légion dans l'histoire, conséquence d'une défaite militaire, de l'occupation d'un territoire, d'un programme d'austérité ou tout simplement de l'exclusion du système international. Elles alimentent un désir de revanche dont on mesure parfois mal tous les effets. Alors l'humiliation est-elle moteur de révolution ? C'est le sujet de notre Club des Idées ce soir avec 3 de ses membres. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Eh ben, je rappelle que vous êtes chroniqueur à France Culture. Le tour du monde des idées, c'est du lundi au vendredi à 11h53 précisément. À vos côtés pour discuter ce soir, Ludivine Bantini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen, chercheuse au Centre d'histoire de Sciences Po. Et puis vous travaillez en ce moment précisément sur le rôle des émotions dans l'engagement militaire. C'est dans un ouvrage collectif.
Alors oui, un ouvrage collectif, notamment à paraître dans son 3e volume, puisque les 2 premiers volumes, l'histoire des émotions, dirigés par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, les 2 premiers volumes sont déjà parus, et le 3e va être publié à la rentrée prochaine, autour de donc l'histoire des émotions au XXe siècle.
Et puis notre 3e membre du club, c'est Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes politologue et enseignante en théologie politique à Sciences Po Paris.
In Versailles, da saß uns ein Mann gegenüber, der alte Clemenceau.
À Versailles, il y avait un homme en face de nous, le vieux Clemenceau. Jamais je n'oublierai ce jour terrible de Versailles, où notre destin politique, notre misère morale et notre pire déchéance commencèrent. La dernière raison de la conclusion malheureuse de la guerre, cela ne fut pas la défaillance de l'armée allemande et du peuple allemand, mais l'absence d'un homme d'État exceptionnel. Aucun peuple ne peut longtemps résister s'il n'a pas à sa tête un vrai guide.
Alors on entend bien la profondeur de la blessure hein, dans le récit de ce membre de la délégation allemande, Ludivine Bantini. Une humiliation, c'est d'abord un traumatisme.
Oui, bien sûr, et ça nous indique à quel point la question de l'émotion, et en l'occurrence l'humiliation, est tout à fait fondamentale en politique. Il y a longtemps eu, pas seulement dans les sciences sociales et en histoire en particulier, mais une disqualification de l'émotion dans le champ politique. On peut remonter de ce point de vue à Gustave Le Bon, la psychologie des foules, dans les années 1890, hein, qui en fait considérait que l'émotion était par définition irrationnelle et qu'elle conduisait à des traumatismes vidés de sens politique, soit à des explosions, mais qui en aucun cas à ses yeux n'étaient politiques. Et donc cette disqualification des émotions oublie justement la dimension d'intelligence qu'il peut y avoir dans les émotions, de travail émotionnel. Et donc ça nous permet aussi de renouer avec l'origine même du terme d'émotion. Et on pourra y revenir plus précisément en effet avec l'humiliation. L'émotion, c'est ce qui meut, donc c'est le latin movere. Et ce qui est assez d'ailleurs intéressant, c'est que l'émotion au 19e siècle était définie par les révoltes du peuple. Émotion, c'était l'équivalent de émeute. Donc voilà, ce qui soulève un peuple, ce qui pousse un peuple à se rebeller, à se révolter.
Et alors précisément dans le cas du traité de Versailles, Brice Couturier, est-ce qu'on a là pas là un peu le cas emblématique d'une humiliation qui va être moteur, terreau d'une, tout simplement du prochain conflit à venir ?
Ben oui, on l'a bien vu au cours de la conférence qui réglait cette défaite de l'Allemagne, c'est qu'effectivement il y avait une position française qui était une position dure, qui visait, on dira, à ajouter la déchéance morale à l'affront de la défaite. Alors qu'il y avait une position américaine, par exemple, qui tentait au contraire de sauvegarder au moins l'apparence pour les Allemands. Et il est bien évident que cette culture du ressentiment qui a été celle du nationalisme allemand blessé dans son orgueil durant les années 20 et 30 a produit le phénomène hitlérien. Hitler n'aurait pas pu apparaître s'il n'y avait pas eu cette profonde humiliation, cette blessure morale que la France a eu la bêtise d'ajouter à sa victoire sur l'Allemagne en 1918. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, quand on lit ce que écrit Keynes, le fameux livre qui a été publié où on voit Keynes et Bainville réagir tous les deux étaient présents lors de la conférence, on voit bien effectivement que Clémenceau a humilié son adversaire. Moyennant quoi, le vaincu est par définition humilié. Il est bien difficile de ne pas ajouter l'humiliation à la défaite. Le vainqueur, surtout à l'issue d'une guerre aussi atroce que celle de 14-18, il est évident que le ressentiment du vainqueur lui-même a besoin d'une compensation morale et il inflige cette humiliation supplémentaire à celui qui l'a vaincu. Comment faire pour que le vainqueur n'inflige pas cette humiliation supplémentaire? Je pense que c'est ça vraiment le fond du problème dans les relations internationales. Quand il y a un conflit, il y a toujours un vainqueur et il y a toujours un vaincu. Comment faire pour que le vaincu ne se sente pas humilié? Comment faire pour restaurer sa dignité autour de la table de négociation? C'est une question très difficile. Regardez ce qui s'est passé entre Israël et les pays arabes après la guerre des six jours.
Et concernant encore un instant le traité de Versailles et la défaite de l'Allemagne, une humiliation qui répondait aussi à une autre humiliation antérieure, celle de la France lors de la guerre de 1870. Encore une fois, un exemple vraiment emblématique du cycle des humiliations, des vengeances, humiliations, vengeances. Anastasia Colosimo.
C'est évident que c'est un cycle et quand on réfléchit à comment en sortir, c'est très difficile puisque par définition, le vaincu est humilié. Enfin, c'est une humiliation de perdre. Et je ne sais pas si on peut vraiment sortir de cycle. Je pense que la philosophie allemande nous enseigne justement que le droit international a des limites et que les États se comportent entre eux souvent comme à l'état de nature. Et donc, il est très compliqué, en fait, de justement trouver une raison à tout ça, trouver une raison qui serait supranationale. En revanche, je dirais plutôt qu'il y a deux manières de vivre l'humiliation. Et on a vu d'ailleurs dans l'histoire qu'il y avait plusieurs manières de la vivre. Il y a soit une manière qui serait une bonne manière, c'est-à-dire de dire, voilà, on a été humilié, donc maintenant on va se reconstruire et on va le faire en étant les meilleurs. Alors on peut penser par exemple que l'Allemagne, aujourd'hui, a pris sa revanche économique en Europe et c'est pas une revanche guerrière, etc. Et puis il y a l'humiliation, pour le coup, qui est... La réaction qui est mauvaise et qui est celle justement de la revanche totale et absolue, on emporte tout le monde avec soi et on va à sa perte.
Brice Couturier, vous disiez l'enjeu aujourd'hui c'est d'éviter que les vaincus soient humiliés. Alors est-ce qu'on n'a pas quand même fait un petit peu des progrès depuis 14-18 dans la manière de réintégrer les vaincus dans le système international, dans la manière de préserver à minima leur dignité et puis de ne pas leur mettre sur le dos l'entièreté de la responsabilité de la guerre, de la destruction comme cela avait été fait pour le traité de Versailles?
À l'humiliation de l'Allemagne en 1918 et au passant de l'Autriche et de la Hongrie qui ont été encore plus humiliés, j'opposerais plutôt la manière, pour reprendre un exemple historique, la manière dont les vainqueurs de 1815 contre la France, la grande coalition des peuples contre la France, a réglé avec beaucoup d'habileté, sans humilier la France en 1815 au congrès de Vienne, l'affaire. En réalité, comme on l'a souvent dit, c'est la France qui a mené la négociation de règlement du conflit des guerres de l'Empire, puisque c'est Talleyrand, en réalité, qui a eu l'habileté de se présenter comme le grand ordonnateur de cette conférence de Vienne. Et effectivement, les puissances victorieuses ont eu l'intelligence, alors qu'elles avaient humilié la France en faisant boire les chevaux du tsar dans les allées des Tuileries, comme les contemporains s'en souvenaient avec effroi, ont eu l'intelligence de ne pas humilier la France et de ne pas ajouter effectivement l'humiliation à la défaite militaire. Moyennant quoi, effectivement, on a connu une période pacifique après ce règlement du congrès de Vienne. Donc, c'est pas inévitable que d'ajouter l'humiliation à la défaite. Et encore une fois, de ce point de vue-là, 1918 a été une faute. Mais il faut voir aussi que quand la guerre arrive à un certain déchaînement de violence, comme le montre George Moss par exemple, quand il y a cette brutalisation des esprits, quand les bornes morales sont franchies, que la transgression est totale dans l'emploi des armes de part et d'autre, il est difficile effectivement de calmer les passions une fois la victoire obtenue et de s'éviter cette erreur politique que constitue l'humiliation. Parce que comme vous le disiez, comme vous le soulignez tout à l'heure, effectivement, l'humiliation entraîne le désir de vengeance. Et effectivement, ce qui s'est passé en 1918 répondait à l'humiliation subie par la France en 1870-71. Il faut toujours un moment, c'est comme dans toutes les vendettas d'État, il y a un moment où il faut mettre fin au cycle infernal de la vengeance. Et ça demande de la sagesse.
Et Ludivine Pantini, peut-être la clé, justement, se trouve dans l'instruction, dans l'enseignement de l'histoire tel qu'il est fait. Vous avez étudié la manière dont l'humiliation transmise par la mémoire de la génération passée qui a souffert joue de manière très forte dans l'engagement patriotique, dans l'engagement personnel des individus dans le conflit. Est-ce que une manière de désamorcer la bombe de la revanche, elle n'est pas dans la transmission, dans l'éducation d'une génération?
Sans doute, mais tout dépend en effet de la manière dont cette éducation elle-même s'organise et se dispose, parce que vous avez raison de rappeler que dans les années qui ont suivi la défaite de la France en 1870-71, tout l'enseignement patriotique de l'école dite de Jules Ferry visait en effet à travailler à la revanche, et on ne voyait les enfants que comme, en réalité, pas du tout comme des enfants, mais comme des adultes en miniature et des soldats en miniature, de petits soldats auxquels on apprenait notamment par les bataillons scolaires à porter les armes et d'ores et déjà à se préparer à se battre. Simplement, je pense que l'humiliation n'est pas le seul ingrédient, ou le cycle de la revanche ne sont pas les seuls ingrédients à l'explication du déclenchement des hostilités en 1914, parce que d'ailleurs, l'idée de récupérer les provinces perdues, c'était quand même très très largement atténuée à la veille de la Première Guerre mondiale. C'était plus le levain essentiel. Le levain, il était davantage dans une rivalité inter-impérialiste, notamment pour les colonies. On savait déjà en 1905, comme en 1911, qu'il y avait déjà eu des menaces de guerre très graves, hein, qui pesaient dans le rapport franco-allemand. Donc moi, je me référerais volontiers à Madame de Sévigné, enfin, c'est-à-dire plus précisément à ce qu'elle disait, qui est citée par un très très bon politiste états-unien qui a réfléchi à l'humiliation, qui s'appelle James Scott. James Scott a notamment publié un livre qui s'appelle « La domination et les arts de la résistance », et il montre que précisément l'humiliation est une forme de domination, c'est une forme de souveraineté, c'est une arme de gouvernement. Et il cite l'une des lettres de Madame de Sévigné qui disait précisément « L'humiliation est nécessaire à la préservation de l'ordre social ». Voilà. Et ça, je pense que ça nous fait réfléchir autant au niveau géopolitique, en termes de politique intérieure, et dans les rapports sociaux également quotidiens. Je pense que il faut revenir à des conflits aussi très contemporains. Par exemple, l'Irak serait une matrice assez intéressante pour réfléchir au degré d'humiliation et au degré d'effacement aussi des victimes même. Non seulement de la guerre, mais de l'embargo, du blocus économique. Quand, par exemple, Madeleine Albright, mais le secrétaire d'État aussi d'Obama à la Défense, hein, Léon Panetta, disait la même chose qu'Albright, c'est-à-dire que il y a eu un demi-million d'enfants irakiens morts du fait de l'embargo, mais le prix en valait la peine.
À propos de l'influence de l'humiliation en géopolitique, je voulais vous faire écouter l'analyse de Bertrand Badie, géopolitologue qui a beaucoup travaillé sur le sentiment d'humiliation, le temps des humiliés. C'est son ouvrage paru chez Odile Jacob.
Il n'y a plus de règles du jeu évidentes depuis que le condominium de la bipolarité a disparu. Et donc la vie internationale, c'est une bataille permanente pour le statut. Eh bien, le jeu international, il y a les États qui jouent dans la première division, d'autres qui jouent en deuxième division, d'autres en division d'honneur. Ceux qui vivent en première division veulent y rester et donc ont tendance à humilier ceux qui sont en deuxième division. Ceux qui sont en deuxième division veulent monter. C'est le phénomène des émergents. Ouais. Et là, ça crée une sorte de ressentiment permanent. Et puis, il y a ceux qui sont les laissés pour compte et qui sont en division d'honneur.
Une réaction à cette analyse et puis surtout analogie avec le système de football, hein, les divisions établies par Bertrand Badie. L'humiliation, elle est intrinsèque, elle est structurelle au système international, Anastasia Colosimo.
Oui, je pense qu'elle est structurelle et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que dit Bertrand Badie, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça soit un phénomène qui soit apparu après la fin de la bipolarisation du monde. Enfin, il me semble que cette histoire d'humiliation géopolitique au niveau international, c'est une histoire vieille comme le monde. On a ça à Athènes, on a ça tout au long de l'histoire, et donc. Je ne pense pas qu'on puisse dire des... Enfin, plutôt. Je pense que la question devrait se poser du point de vue du droit international. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est effectivement, nous, dans une époque où on essaie de construire un droit international, où on en voit toutes les limites, et où on voit que même en essayant, ça ne marche pas toujours, la question, c'est plutôt de savoir exactement, comme le soulignait Brice Couturier, qu'est-ce que le droit international, quels outils le droit international peut nous donner pour que, justement, dans des conflits où il y a toujours... un vainqueur et un vaincu, un humiliant et un humilié, quels outils peuvent servir justement à ne pas créer ce ressentiment, ou en tout cas, si ce ressentiment existe, à le canaliser.
Et au-delà des conflits, Bertrand Badie parle aussi de l'ensemble du système international, c'est-à-dire avec des pays qui ont souffert et qui souffrent encore d'une domination politique, économique, ne serait-ce que par le fonctionnement de l'ONU, avec un Conseil de sécurité détenant vraiment le pouvoir au niveau international où ne siègent que 5 nations. Même question, Brice Couturier, est-ce que structurellement, dans la manière dont est organisé le système international, on n'a pas de toute façon le ferment d'humiliation petite ou grande pour les nations?
Oui, mais j'aime bien ce que dit Dominique Moisy dans son traité La géopolitique de l'émotion, où il consacre précisément un chapitre à la culture de l'humiliation. Il dit qu'il y a une bonne et une mauvaise humiliation. C'est une idée assez intéressante. Il dit qu'il y a une humiliation qui est stimulante, et il prend l'exemple en particulier de la Corée du Sud et de Taïwan, qui ont été profondément humiliés par le Japon pendant la guerre de 39-45, et qui ont voulu prouver à l'ancienne puissance coloniale qu'ils étaient aussi bons qu'eux. Et effectivement, comme on sait, la Corée du Sud, c'était un pays qui avait le même PIB que le Kenya dans les années 60. Aujourd'hui, c'est une des puissances économiques de l'Asie. Pourquoi ? Parce que cette culture de l'humiliation, on produit chez les gens là-bas, dans ces petites îles, dans ces péninsules, ils ont produit une volonté de revanche qui s'est traduite par une affirmation de la puissance économique et non pas de la puissance militaire. Et du coup, ils sont devenus des interlocuteurs importants. Et encore une fois, Moisy oppose cette humiliation positive, donc qui serait celle de l'humiliation nationale subie par la Corée du Sud et de Taïwan, à la mauvaise humiliation, celle du monde arabo-musulman, qui a eu le sentiment, à partir de l'échec du siège de Vienne à la fin du XVIIe siècle, et puis surtout de l'invasion de l'Égypte par Bonaparte, qui a eu le sentiment d'être dépossédé de sa propre histoire et qu'il a encore aujourd'hui. Et il dit quelque chose d'intéressant là-dessus, Moisy. Il dit que ce qui est le pire, c'est quand on a le sentiment que son destin est entre les mains d'autrui, qu'il vous échappe. Et pire encore, quand votre propre histoire est écrite par l'autre, quand votre culture est décrite par l'autre et que vous en perdez jusqu'au contrôle du récit lui-même. Et ça, c'est l'humiliation suprême. Et en relation internationale, je pense que ça joue un rôle absolument essentiel.
Anastasia Colosimo.
Oui, alors je voulais ajouter quand même, parce que ces histoires de division, c'est intéressant. Mais c'est aussi très intéressant parce qu'on voit que dans le monde, il y a des pays qui ont quand même une vocation messianique, plus que d'autres en tout cas. On voit qu'il y a des pays qui sont dans des logiques d'extension de leur empire, d'autres pas du tout. Donc on voit qu'il y a quand même des cultures qui sont très différentes à l'œuvre, dans ces relations internationales. Et il y a une vision de l'histoire, qui est la vision occidentale de l'histoire, qui est que, et Hegel en parle très bien, Hegel dit qu'il y a des pays qui sont dans l'histoire et des pays qui sont hors de l'histoire. Et il y a un essai formidable d'un Hongrois qui s'appelle Foldeni, qui s'appelle « Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes ». Et Foldeni s'imagine Dostoïevski qui découvre Hegel. Et vous savez, Hegel, dans ses écrits, explique que la Sibérie fait pas partie de l'histoire de toute façon. Et donc, Dostoïevski découvre ça et commence à pleurer en se disant « Mais en fait, tout ce que je vis et tous les combats politiques que nous sommes en train de mener, ben, en fait, ils sont en dehors de l'histoire. » Et donc, il y a vraiment cette idée, effectivement, que non seulement il y a un sens de l'histoire, que ce sens de l'histoire, il est déterminé par des pays qui appartiennent à l'histoire et qui font l'histoire, et qu'il y a tous les autres pays qui ne font pas l'histoire et qui, de toute façon, ne sont pas, justement, dans cette marge du monde.
Et des pays qui donc peuvent se trouver dans un sentiment de demande de revanche qu'on peut comprendre. Vous parliez des mauvaises et des bonnes humiliations.
C'est Moïsi.
Alors, Dominique Moïsi, est-ce que l'exclusion d'un pays du système international, on pense par exemple à l'Iran avant l'accord sur le nucléaire ou à la Corée du Nord, est-ce que ces exclusions-là, les sanctions, etc., sont, selon vous, des humiliations qui peuvent avoir des effets positifs? C'est-à-dire qu'elles peuvent exercer une pression qui puisse forcer le pays à aller dans le sens voulu par le reste de la communauté internationale.
C'est surtout les sanctions économiques qui peuvent avoir un poids. Dans le cas de l'Iran, elles ont été effectivement très efficaces, contrairement à ce qu'on a souvent lu ici ou là, puisqu'elles ont réduit de moitié leurs recettes pétrolières, alors que le pays en dépend de manière flagrante. Un pays qui se comporte mal peut être exclu de la communauté internationale. C'est le cas de la Corée du Nord, effectivement. C'est un cas assez typique. Est-ce que maintenant, il faut voir que les pays qui sont exclus de la communauté internationale sont rarement des démocraties, donc c'est des pays dans lesquels l'opinion publique pèse d'un poids assez léger, si vous voyez ce que je veux dire, on n'en tiendra guère compte. Et de toute façon, cette opinion publique n'est pratiquement pas au courant du fait que son pays est exclu de la scène internationale.
Vous voulez dire que l'humiliation ne la touche pas ?
Non, elle est plus humiliée par le fait de subir une dictature atroce.
Lucivine Bantini ?
Oui, mais deux choses à propos de votre question sur les sanctions, d'abord. Parce que, encore une fois, la question de l'efficacité ne se mesure pas qu'en termes économiques ou en termes géopolitiques. Le problème, c'est qu'on oublie souvent la dimension humaine, encore une fois. Si on se réfère à l'Irak, les sanctions économiques qui ont privé toute une population des ressources nécessaires, élémentaires en termes de aussi bien de vivre que de médicaments, c'est 1 million de victimes. Et en fait, ce chiffre, à un moment, ne veut quasiment plus rien dire justement en termes géopolitiques. Et c'est intéressant de voir comment les médias, tout au long des années 1990, ont traité de ces victimes ou comment en ont traité aussi les responsables de l'état-major états-unien. Le général Toby Franks, qui était un des responsables de la situation en Irak, disait « nous ne tenons pas le compte des cadavres ». Et ça, je pense que c'est un redoublement de l'humiliation, puisque c'est d'abord tuer. Moi, ça me fait penser à ce que théorise Achille Mbembe autour de ce qu'il appelle la nécropolitique, c'est-à-dire la politique comme pouvoir absolu de donner la mort sans considération justement des victimes. Donc c'est tuer une fois et tuer aussi par ce redoublement qui consiste à nier les victimes par le refus, par exemple, de les dénombrer. Alors, ce que je trouvais également intéressant dans ce qu'a dit Brice Couturier tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a un effacement du récit par les acteurs, les protagonistes même de leur histoire. Comment on empêche des peuples entiers d'écrire leur propre histoire, comment ils se sentent désappropriés de leur histoire. Moi, je pense à la Grèce, et de ce point de vue, c'est pas uniquement des questions de nations, des nations qui seraient messianiques et plus impérialistes que d'autres, mais je pense que dans le cas de la Grèce actuelle, non pas de l'Athènes classique, mais de la Grèce actuelle, on est face à des institutions internationales que forment notamment la Troïka, donc la Commission européenne, la BCE et le FMI, qui sont en soi, qui mènent vraiment une guerre d'humiliation, une guerre d'asservissement. Et c'est intéressant ce qu'avait dit à ce sujet Yanis Varoufakis, qui avait dit finalement, en citant Brecht, c'est pas la peine d'envoyer des assassins quand nous pouvons recourir à des huissiers. C'est-à-dire que nous avons été écrasés, le printemps d'Athènes a été écrasé non par des tanks, mais par des banques.
Alors justement,
les nouvelles modalités de l'humiliation, il ne s'agit pas forcément d'assassiner avec des armes de destruction massive qui ensanglantent, mais qui humilient un peuple par le refus absolu de lui confier toute souveraineté.
Puisque vous parlez de la Grèce, Ludivine Bantini, je voulais vous faire écouter cette archive de juillet 2015. On est au Parlement européen. La parole est au député européen allemand Manfred Weber qui s'adresse au Premier ministre grec Alexis Tsipras.
Monsieur Tsipras, vous aimez la provocation, alors que nous, nous aimons le compromis. Vous aimez échouer, nous aimons réussir. Vous divisez l'Europe et nous, nous aimons l'Europe. J'espère que vous reviendrez à la raison et que vous présenterez enfin un programme. Merci.
Alors on a là un exemple d'une humiliation publique qui est filmée en plus en direct du Parlement européen, qui est plein. Et la discussion ne porte pas vraisemblablement sur les programmes d'aide, la dette, les chiffres, etc. On est vraiment dans des choses assez définitives. Nous aimons la réussite, vous aimez l'échec. Là, quelque part, l'humiliation sert peut-être à sortir du débat politique. Anastasia Colosimo.
Alors justement, déjà j'aimerais juste dire qu'il y a encore beaucoup d'humiliations armées. L'arme économique, c'est une partie des humiliations, mais enfin il y a quand même encore beaucoup d'humiliations de tanks, en plus des humiliations de banques. D'ailleurs, on remarque que les tanks se dirigent vers certains pays et les humiliations de banques vers d'autres. Néanmoins, sur cette histoire d'humiliation, je dirais que, et ce passage... est vraiment terrible sur la Grèce, je dirais que quand même, néanmoins, les pays réagissent différemment. Moi, je suis pas sûre que ça fonctionne, en fait. Je suis pas sûre que ça fonctionne, et même quand on regarde les sanctions économiques qui ont pu être infligées à l'Iran, ou les sanctions économiques aujourd'hui qu'on inflige à la Russie, on voit que le peuple, très souvent, en réalité, est tellement humilié que justement, il en fait quasiment une fierté, tes sanctions. Notamment, il y a un documentaire qui est passé sur France 2 sur Poutine la semaine dernière, et les Russes font des chansons très gaies, très joyeuses, en disant « Continuez à nous sanctionner, nous on s'en fiche, de toute façon, on est chez nous, etc. » Donc je suis pas sûre que ça fonctionne, en fait. Donc il y a une vraie question de savoir, est-ce que ces humiliations-là donnent un résultat ? Je suis pas sûre qu'elles donnent un résultat, et la Grèce, il va falloir voir aussi ce qui se passe.
Brice Couturier, sur le cas de la Grèce.
Vous savez, quand on est ruiné, quand on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne et qu'on a besoin des autres pour finir, pour boucler ses fins de mois, on est forcément humilié parce que les autres vous imposent forcément des conditions pour ce bail-out, pour ce renflouement de vos banques. Sinon, vous êtes ruiné. Donc oui, le problème de la Grèce, c'est pas seulement l'humiliation, c'est la mauvaise gestion tout simplement. Alors quand on pratique une mauvaise gestion pendant des décennies, quand on crée des couches de clientèle électorale successives, quand la droite et la gauche se succédant au pouvoir recrutent des dizaines de milliers de fonctionnaires qui ne servent à rien uniquement pour se créer des électeurs, à la fin, on est obligé d'aller chercher les banques allemandes pour se renflouer, ce qu'ils ont fait. C'est très humiliant, bien entendu, mais il vaut mieux éviter. C'est comme n'importe lequel d'entre nous, si nous faisons faillite, si nous sommes obligés d'aller supplier le banquier de nous permettre de payer nos charges du mois prochain, nous serons très humiliés.
Mais la question n'est pas de savoir si la Grèce a tort ou a raison dans le dossier.
Si.
Simplement, mais sur le geste du député allemand qui, en séance publique...
Bah c'est le banquier, Mélanie. C'est le banquier. Oui. Si vous allez voir votre banquier, parce que vous n'allez pas... Oui, la faute et la dette, c'est le même mot.
Non, mais par ailleurs, c'est les Allemands qui gèrent bien et les Grecs qui ne gèrent pas bien. Donc, il y a aussi, je pense... Enfin, il y a des persistances culturelles quand même...
Ludivine Bortini.
Moi, je commencerai quand même, parce que je peux pas laisser tout à fait dire ça à Brice Couturier. C'est-à-dire que si on prend le cas de la crise financière ouverte en 2007-2008, quand les banques et le système financier international lui-même s'est révélé défaillant, avec un système lui-même qui est à la fois corrompu et avec une gestion extraordinairement cataclysmique...
Mais l'État grec ne vous paraissait pas,
attendez,
lui, défaillant ?
Attendez, non, s'il vous plaît, voilà, je vais terminer. Ma phrase est donc un petit argument. Quand les banques sont venues supplier les États de les renflouer, l'État français comme les autres, eh bien là, on n'a pas dit mais mauvaise gestion, non, hors de question, on vous fera... Non, on leur a fait des cadeaux, on leur a donné des... Voilà, là où il n'y avait plus d'argent dans les caisses, alors là, on n'a pas humilié les banques, on les a renflouées bien généreusement, avec... Voilà. Bon, ça c'est une première chose, parce qu'il y en a assez d'entendre dire que ce peuple grec, enfin, en insistant encore sur cette humiliation, parce que moi je trouve que c'est assez extraordinaire cette séquence que vous nous avez passée, parce que c'est typiquement le clivage, voilà, cette façon d'imposer un clivage entre raison et émotion. C'était qui donc ce député allemand ? J'ai pas bien entendu.
Il s'agissait député européen allemand Manfred Weber.
Qui
est président à l'époque du PPE, conservateur.
Qui dit à Tsipras, il faut revenir à la raison. C'est-à-dire, vous êtes complètement irrationnel, vous êtes complètement du côté des émotions. Et nous, nous sommes du côté de la rationalité, de l'intelligence économique. Quand on voit justement, encore une fois, quand on se rappelle ce qu'est la crise financière au niveau international, enfin, c'est, je pense que c'est vraiment une contradiction dans les termes que d'avoir cette prétention-là. Mais ça revient aussi à ce qu'a dit Jean-Claude Juncker à propos des traités européens, et notamment en parlant de la Grèce, et en parlant du gouvernement Tsipras, à qui il refusait toute souveraineté et toute légitimité. Il a dit « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Donc ça, c'est en soi...
Donc la limite à ne pas franchir, ce serait de rester sur des questions de politique qui ont été appliquées par tel ou tel gouvernement et de ne pas tomber sur une essentialisation de dire « le peuple grec est ceci, le peuple allemand est ceci ». Ça serait la limite pour éviter de tomber dans des humiliations contre-productives.
Bah, non, parce que par ailleurs, le peuple allemand est comme il est et le peuple grec est comme il est. Et d'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre, je trouve que c'est vraiment un très très bon résumé de ce qu'est le peuple allemand et ce qu'est le peuple grec. Je pense que tout ça existe. Et c'est pas une question d'essentialiser.
Pour vous, ce ne sont pas des caricatures.
Non, mais il y a des fonds culturels. Enfin, les Grecs sont des orientaux. C'est des sociétés où il y a énormément de corruption. C'est des sociétés, etc., etc. Enfin, on le sait tout ça. Donc, et c'est pas une question d'essentialiser. C'est juste vraiment pour moi une question aussi d'incompatibilité des cultures qui pose d'ailleurs beaucoup de questions à l'Europe par ailleurs, je trouve.
Brice Couturier.
Juste un mot. Quand un État atteint les limites de son endettement et qu'il ne trouve plus de financement sur les marchés internationaux, ce qui lui reste, c'est la perte de sa souveraineté. C'est un bel avertissement pour nous tous, ici en particulier en France, où nous allons atteindre les 100% de PIB en dette publique dès le début de l'année prochaine.
Alors, tout à l'heure, on parlait de récits. Je voulais vous faire écouter une nouvelle archive. 2015, c'était les 70 ans de la victoire du 9 mai 1945. La plus grande parade depuis la chute de l'URSS en Russie. Aucun représentant de l'Occident n'était présent à cause de la crise en Ukraine. Et je voulais vous faire écouter le témoignage plutôt amer d'une journaliste russe.
Pour le russe, cela nous blesse parce qu'on ne veut pas partager la joie de la victoire avec nous. On ne veut pas nous voir comme des victorieux, des triomphateurs. On nous voit comme des agresseurs. Et pour nous, c'est insultant et douloureux. Je pense que l'Occident ne réalise pas très bien ce qui se passe. Il pense punir Poutine et l'élite russe en ne venant pas. C'est une question de politique étrangère. Mais pour les citoyens russes, pour le peuple, c'est une insulte à tout le peuple. On vise Poutine et on blesse le peuple russe. Vraiment, c'est bien dommage.
Anastasia Colosimo, Poutine figure martyr pour le peuple russe.
Je dirais pas Poutine figure martyr, j'ajouterais à l'absence des Occidentaux ce jour-là le fait que les Russes n'ont pas été invités lors de la commémoration de la libération d'Auschwitz alors que c'est eux qui l'ont libéré. C'est très intéressant ce qu'elle dit cette journaliste parce qu'elle dit le peuple. Pourquoi ? La société russe c'est une société qui vit encore beaucoup dans la transmission puisque les vieux vivent avec les jeunes et donc les jeunes ont quand même une conscience encore très accrue de la Seconde Guerre mondiale et surtout des pertes que ça a été pour la population russe qu'on compte en millions. Et quand les Russes ont libéré l'Europe, oui, mais ils l'ont fait.
Crier.
Quand les Russes ont libéré l'Europe, ils n'ont pas compté les hommes. Et ça, les familles s'en souviennent très bien. Et donc, quand on parle de l'humiliation d'un peuple, c'est effectivement l'humiliation d'un peuple parce que eux se souviennent très bien, parce que c'était leurs grands-parents, parce qu'ils ont entendu toutes ces histoires et parce qu'ils ont grandi avec toutes ces histoires et parce que leur lieu géographique rappelle sans cesse cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, que les Russes soient absents ce jour-là, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, catastrophique. Et à ce moment-là, effectivement, il faut être raisonnable et ne pas raisonner en fonction des amitiés ou inimitiés, ne pas réfléchir à Poutine, mais réfléchir réellement à ce que le peuple russe a apporté à ce moment-là, qui était vraiment pas négligeable, et évidemment les inviter. La guerre, elle a été gagnée par les Américains et par les Russes. En France, on parle beaucoup d'Américains, on parle beaucoup moins des Russes, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème.
Brice Couturier, on a trop dénié trop longtemps au peuple russe ce rôle de victorieux, de triomphateur.
Mais soyez honnête, Brice Couturier, le peuple, le peuple, parce que je suis complètement
Anastasia,
d'accord.
Anastasia, non,
mais vous
savez très bien ce que je vais vous dire. En 1945, il y avait un autre peuple qui se sentait horriblement humilié et qui avait de très bonnes raisons pour cela. C'était le peuple polonais qui avait consenti des sacrifices inouïs dans la résistance, qui avait été une partie prenante depuis la bataille de de l'air d'au-dessus de l'Angleterre en 1940, dans l'été 40, jusqu'à la reconquête de l'Italie et la bataille de Monte Cassino. Les Polonais ont perdu des centaines de milliers d'hommes eux aussi au cours de ce conflit, alors qu'ils étaient un pays occupé. Or, eux, figurez-vous, la libération, elle a pris l'apparence de l'armée rouge, qui n'était pas une armée de libération, qui était une armée d'invasion, qui était une armée d'occupation, et qui les a occupés pendant un demi-siècle en les privant de leur souveraineté. Donc, vous voyez,
c'est pour ça que je vous ai demandé d'être honnête et de parler du peuple et de parler du fait que, et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'il y a une mémoire, qui est encore extrêmement vivante quand même de cette guerre, vraiment dans le peuple russe. Et d'ailleurs, il y a un attachement à la France dans le peuple russe qui est énorme. Cet attachement qu'on a vu au lendemain des attentats, cet attachement qu'on voit dans le fait que le français est encore la langue la plus étudiée en Russie, etc. Et que la France se comporte comme ça vis-à-vis de la Russie. Je ne vous parle pas de la Pologne, je vous parle de la France vis-à-vis de la Russie. C'est effectivement complètement bizarre.
La Russie a libéré
que
l'Union soviétique, pas la Russie. C'était pas la Russie à l'époque, Anastasia. C'était l'Union soviétique.
C'était
l'Union soviétique. C'était l'Union soviétique. C'était une puissance totalitaire dirigée par un homme qui s'appelait Staline.
Mais c'est pas la question.
C'était une puissance d'occupation pour les Tchèques, les Hongrois, les Polonais, les Roumains et les Baltes.
Ça n'est pas la question.
Tous les vainqueurs ont été des puissances d'occupation. Enfin voilà, je veux dire, regardez la situation de l'Allemagne.
Mais les Polonais aussi étaient des vainqueurs. Ils ont été soumis comme des vaincus.
Il faut arrêter d'imaginer qu'il y aurait que, enfin voilà, parce que
les Français étaient des vaincus.
Le méchant totalitaire de l'Est qui était une puissance occupante.
Je parlerai bien aussi du million d'Afghans qui ont été tués par l'armée rouge. Vous parliez tout à l'heure de ce chiffre de je ne sais pas d'où il sort, de 1 million d'Irakiens tués.
C'est très intéressant que vous ne sachiez pas comme journaliste d'où sort ce chiffre.
Mais le million d'Afghans, et vous, est-ce que vous savez qu'un million d'Afghans ont été tués par les Soviétiques? Est-ce que vous savez qu'un million d'Afghans ont été tués par les Soviétiques?
Alors on va pas refaire sur chaque dossier la bataille des chiffres et la bataille historique de chaque, s'il vous plaît, de chacun des exemples qu'on soulève, peut-être pour rester sur le poids et l'humiliation. Et on le voit bien à notre discussion à quel point les questions d'humiliation sont déterminantes. On explique souvent la fermeté de Vladimir Poutine sur la scène internationale en disant Vladimir Poutine lave l'affront qui a été fait à la Russie après la chute du mur, d'une relative exclusion de la Russie du système international. Est-ce que vous pensez que effectivement aujourd'hui c'est une grille de lecture pertinente de dire si Vladimir Poutine reprend à ce point une fermeté, le contrôle de sa politique étrangère, c'est une dynamique de revanche avant tout qui est portée dans sa politique étrangère, Anastasia Colosimo?
C'est sûr que ça joue et c'est sûr que c'est un ciment très fort aujourd'hui pour la nation russe. D'ailleurs, les journalistes russes notent très souvent qu'on parle tout le temps de politique étrangère en Russie, mais qu'on parle très peu de politique intérieure. Et on parle très peu des problèmes quotidiens des Russes, on parle très peu du pouvoir d'achat, des problèmes économiques, etc. Mais on parle de cette politique extérieure qui est effectivement assez violente et en même temps qui satisfait aussi beaucoup les Russes parce que les Russes ont envie d'exister sur la scène internationale. Et c'est vrai que les Russes ont senti à la chute de l'URSS qu'ils sortaient justement de l'histoire, on est toujours dans cette problématique-là, et qu'ils ne voulaient pas sortir et que là ils ont un homme qui fait tout pour qu'en fait rien ne se passe plus sans la Russie sur la scène internationale. Et pour eux ça, en fait, c'est très très important.
Alors, pour revenir à une réaction peut-être, Ludivine Pontini, pardon.
Non, mais je pense qu'il faut quand même être modéré sur le rôle que jouerait l'humiliation et la revanche en matière géopolitique. C'est-à-dire qu'on a insisté sur ce facteur qui est important en politique de manière générale, mais ça ne doit pas nous inciter à tout psychologiser. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de la situation actuellement dans la région moyenne-orientale, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Russie, de ses liens ô combien avec l'axe syro-iranien, mais on parle assez peu des liens que nous et qu'entretient la France avec un pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple. Enfin, et ça, c'est intéressant ce que dit Anastasia, parce qu'en effet, en Russie, on parle beaucoup de politique extérieure, mais finalement, en France, on en parle assez peu. C'est-à-dire que on parle assez peu, justement, des liens qui sont alimentés avec des pays aussi dictatoriaux et cataclysmiques que l'Arabie Saoudite. Et on parle assez peu aussi des guerres vraiment que mène la France, comme la guerre en Afghanistan. Ce qui se passe à Mossoul, par exemple, on parle énormément d'Alep et c'est ô combien légitime, tant c'est tragique, mais on tait vraiment ce qui se passe à Mossoul, qui est une autre forme d'humiliation et qui va être une autre bombe à retardement continue.
En fait. Brice Couturier, prendre la mesure du poids de l'humiliation sans trop psychologiser, comment trouver le bon équilibre?
Ben, par exemple, en acceptant l'idée que quand un empire perd ses colonies, il est humilié. Par exemple, l'Union soviétique était un empire. C'était probablement le dernier empire. Il y avait un empire russe, il y avait eu un empire ottoman, il y avait des empires coloniaux français, britanniques et hollandais. Et il y avait cet empire soviétique qui tenait sur une idéologie, le communisme. Cet empire a fait faillite, non pas parce qu'il a été vaincu sur le plan militaire, mais parce qu'il s'est écroulé sur le plan économique, tout simplement. Il était incapable de survie. Et donc, il est mort aujourd'hui. Il y a effectivement chez le peuple russe, une nostalgie de cet empire. Je pense qu'il ne faut pas l'alimenter. Je pense que les gens comme Marine Le Pen qui soutiennent ce type de régime ont tort, parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison d'avoir une nostalgie impériale. Il faut se résigner à la perte de l'empire. Les Français s'y sont résignés. J'espère que les Russes le feront de même.
Une micro-réaction à la
Non, il n'y a pas de nostalgie de l'empire. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop exagérer. Je pense qu'il ne faut pas trop psychologiser. Mais je pense que ces questions-là, elles existent vraiment. Et je pense que peut-être le signe, justement, que nous, on ne ressente plus cette humiliation, c'est peut-être que nous sommes en train de sortir de l'histoire.
À propos de la nostalgie, je renvoie à l'émission de Culture Monde dont la semaine entière sera justement consacrée à la nostalgie. Je vous conseille de l'écouter. Elle sera animée par Tiphaine de Rocchini. Merci beaucoup à tous les trois, Brice Couturier, Ludivine Bantini, Anastasia Colosimo, d'avoir participé à ce Club des idées. La réécoute, le podcast, les commentaires, c'est sur franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre fil Twitter. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Fanny Richer, Cyril Baer, Céline Leclerc, Isolte Sicard et Philippine Lebray. Réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son Jean-Frédérix. Lundi, c'est Hervé Gardette qui sera de retour au micro du Grain à Moudre avec cette question: pourquoi n'aimons-nous pas la paix? Une rencontre entre Jean-Claude Carrière et l'historien belge David Van Reybrouck.